BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. J'espère que tout va bien, que vous soyez avec nous en audio, en vidéo, que vous nous écoutiez en avant-première dès le vendredi sur YouTube ou en podcast, ou bien que vous soyez confortablement installé devant BFM Business, que ce soit à la radio ou à la télé. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est De quoi je me mêle, vous le savez, votre rendez-vous du week-end dédié à la tech, avec ce soir un immense club de la presse IT, 52 minutes d'actu qu'on va débattre avec nos spécialistes, et même, si vous êtes gentil, un petit module bonus, vous le savez, exclusif pour la version podcast audio. Voilà, je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à tous les sujets qu'on évoque ensemble. Encore une fois, merci d'être là et bienvenue dans De quoi je me mêle. Un club de la presse IT avec entrée, fromage, dessert, café gourmand, la totale. Anthony Morel est avec nous. Salut Anthony.
Salut François, salut à tous. Je suis fromage moi si je veux bien.
Écoute, pourquoi pas. Moi j'adore ça. Ouais. En plus, tout va bien.
Du fromage de chez Morel. Tu te souviens le sketch des chiens ?
Ça dit rien, ça. Le fromage de chez Morel. Ouais. Eh oui. Après, il y avait pas aussi le Saint-Morel ?
Saint-Morel.
C'était pour rigoler. Mais ouais. Bon,
ça commence bien cette émission. Ouais, hein.
On est parti, waouh.
On est parti loin. Damien Licata Caruso est avec nous. Est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin ? C'est pas sûr.
Bonjour. Non, je vais rester, je pense. On est bien.
Salut
on
Damien.
Est bien accueillis.
Merci
Bonjour.
D'être là. L'une des stars du quotidien Le Parisien, on peut le dire hein, quand même.
Hein,
voilà, journaliste spécialisé dans la tech. Et à ses côtés, oh, ben voilà, un historique de quoi je mêle qu'on est toujours très heureux d'accueillir. C'est Eric Le Bourlou. Salut Eric.
Salut tout le monde.
Voilà, alors Eric, qui est journaliste tech indépendant et que vous pouvez aussi lire avec passion dans les numériques. Voilà, nos collègues du numérique qu'on salue au passage. Cela dit, on est quatre parce qu'on a beaucoup d'actu cette semaine.
Il y a du boulot.
Voilà. Apple qui pourrait confier son intelligence artificielle à Gemini de Google. C'est quand même un truc de dingue, ça. Tu es venu avec un PC Dell qui enferme de l'intelligence artificielle. On ne va pas tout dire maintenant, mais voilà, il y a quelque chose sur le clavier de cet ordinateur, si vous êtes avec nous en vidéo, qui est totalement nouveau. On va en parler dans quelques instants. On parle aussi d'une rumeur, ChatGPT 5 qui devrait bientôt arriver. La PS5 Pro qui a été leakée. Eric, tu nous raconteras un petit peu à quoi elle pourrait ressembler. Et puis on parlera d'aspirobots, enfin plein d'autres choses sympathiques. Mais pour débuter, des images qui sont arrivées il y a quelques heures et qu'on voulait commenter. Alors, on va tout vous expliquer si vous êtes avec nous en audio. On va parler de Neuralink, vous le savez, c'est la boîte incroyable d'Elon Musk qui a pour mission d'implanter des espèces de puces dans le cerveau pour redonner en fait de la mobilité à des personnes qui sont en situation de handicap, hein, bien sûr.
C'est une des applications, en tout cas. Ouais.
Une des applications, il y en a plein d'autres. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on savait depuis quelques semaines qu'un premier humain avait eu un implant neuronal. Okay, on n'avait pas d'autres informations, c'était simplement Elon Musk qui avait tweeté ça. Tout s'est accéléré il y a quelques heures.
Absolument, puisqu'on a eu à la fois l'identité et une vidéo donc, de ce premier patient, j'allais dire premier cobaye, c'est un peu méchant, mais c'est vrai que ça va très vite, c'est un peu ça quand même, parce que c'est quand même une première à plein de points de vue. Donc il s'appelle Noland Arbo, il a 26 ans, c'est un jeune homme qui est tétraplégique depuis 8 ans, il a eu un accident de plongée très grave.
Et donc c'est le premier patient mystère en fait qu'on découvre aujourd'hui.
C'est ça. Et donc il a subi cette intervention, donc implant neuronal Neuralink, et sur la vidéo qui a été publiée cette nuit, et qui est assez incroyable, c'est vrai, on le voit jouer aux échecs par la force de la pensée. Donc il est devant un ordinateur, donc devant une partie d'échecs, il n'a pas de souris, donc de toute façon il ne peut pas se servir d'une souris, il n'a plus l'usage de ses membres. Hein. Et donc en se concentrant sur des zones de l'écran et sur une pièce, sur un cavalier par exemple, il va faire bouger le cavalier d'une case à une autre, puis le fou, enfin il fait une partie d'échec comme s'il jouait avec un clavier et une souris, ou plutôt avec une souris, mais sauf qu'il le fait simplement en se concentrant par la force, comme dans Star Wars. C'est lui qui le dit d'ailleurs, il dit: j'ai l'impression, ça a changé ma vie, le moment où j'ai pu faire ça, en fait j'ai eu l'impression d'avoir accès à la force comme dans Star Wars. Et c'est exactement ça, puisque ça lui permet en fait de retrouver des niveaux de liberté et d'indépendance. Enfin, c'est un truc de fou, et t'imagines quand t'es à ce niveau de handicap.
Ne serait-ce que pour envoyer des messages. Enfin, aujourd'hui, il avait peut-être la voix, bien sûr, mais ça lui permet d'avoir un nouveau sens.
Ah mais complètement, c'est exactement ça. Et en fait, derrière, ce qui est impressionnant, c'est le potentiel que ça peut ouvrir. Parce que en fait, le fait contrôler une souris par la force de la pensée, c'est pas la première fois que ça se produit. Il y a des laboratoires de recherche, y compris en France, qui sont assez pionniers dans ce domaine-là.
Le CEA notamment.
Alors le CEA, absolument. Ouais. On avait vu au CES de Las Vegas. Oui. Hein, tu te souviens, cet exosquelette piloté par la pensée. Enfin, il y a plein d'innovations dans ce domaine-là. Et Neuralink veut aller encore plus loin que ça. Donc ce qu'ils imaginent, c'est qu'en gros, avec cet implant neuronal, on va pouvoir permettre à des personnes handicapées, effectivement, de contrôler un ordinateur, un smartphone. Parce qu'on n'a pas rappelé comment ça fonctionne. En gros, cet implant neuronal, il analyse les signaux électriques envoyés par le cerveau quand tu te concentres sur une action ou sur une zone, sur un écran par exemple. Il interprète ça et il envoie cette information-là vers un ordinateur, là en l'occurrence. Mais ça pourrait être effectivement un exosquelette, donc pour retrouver une liberté de mouvement. Et ce qu'il explique aussi, c'est qu'on pourrait servir de ces technologies pour guérir un certain nombre de handicaps et de maladies qui vont de la cécité, donc redonner la vue à des personnes qui l'ont perdue, à la schizophrénie, la dépression ou l'obésité. Enfin, alors, je ne sais pas comment ça serait possible, il n'a pas encore précisé, mais en tout cas, les pistes de recherche, c'est ça. Donc, c'est absolument vertigineux. Et c'est vrai que cette première étape, elle est quand même, pour le coup, assez prometteuse.
Éric Damien, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est impressionnant. Hein ?
C'est impressionnant, effectivement. C'est une première étape vers l'homme augmenté qu'on nous annonce depuis des années, une bonne dizaine d'années au moins. Et on voit ça en action pour la première fois. Et avec une vidéo un peu artisanale, ça amplifie le côté authentique de la chose. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. Hein. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, waouh, on rentre dans un nouveau cycle où là, ils arrivent, surtout lui, ça va permettre aussi d'accélérer la recherche et le développement, d'attirer plus de chercheurs en disant, il y a quelque chose de concret à la fin de mes recherches. C'est assez impressionnant pour le coup.
C'est peut-être l'un des défis les plus importants d'Elon Musk, finalement. Parce que quand on voit Tesla, OK, SpaceX, c'est incroyable, mais là, on touche à un sujet qui est la santé, qui est le redonner de la mobilité à des personnes qui sont handicapées. Eric, c'est impressionnant.
Ouais, alors moi je suis pas très fan de Neuralink et je suis pas très fan d'Elon Musk, donc je vais pas. Déjà, une petite parenthèse, effectivement, comme le dit Damien, la vidéo est très artisanale. Je montrais ça avec le player vidéo horrible de Twitter. Bon, voilà, on voit que la qualité sur Twitter, c'est vraiment immonde. C'est juste une petite parenthèse.
Tu aurais fait un truc très propre, tu aurais dit oui, c'est un montage.
C'est vrai, Non, mais là, je parle de la compression vidéo qui sur Twitter est vraiment immonde. Alors il voudrait que ça devienne une grosse plateforme vidéo là pour l'instant.
Ouais, il y a encore du boulot.
Mais bon, bref, ceci mis à part, en fait, c'est vrai que la démo est impressionnante et c'est vrai aussi, comme l'a dit Anthony, que c'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'interface. Neuralink veut aller plus loin que d'autres acteurs en s'implantant plus profondément dans le cerveau. Et il y a un autre truc que fait Neuralink que les autres ne font pas, c'est que c'est un device qui sera upgradable, comme il avait dit, il avait comparé ça à un iPhone. Vous n'avez pas envie d'avoir le premier iPhone quand la 14e version est sortie, donc on pourra remplacer effectivement ce petit appareil qu'on va vous mettre dans le crâne en fait, hein, avec des fils qui resteront.
Rappelons que c'est à l'intérieur du crâne et c'est... C'est à la lisière du cerveau, je crois.
Hein. C'est ça.
Ça ne rentre pas dans le cerveau.
Oui, absolument.
Il y a des fils qui vont dans le cerveau. Et il y a donc un truc qu'on peut changer, par contre, qu'on doit recharger d'ailleurs régulièrement. D'accord. D'ailleurs, il s'en plaint. Il dit, ça m'embête quand je ne l'ai plus, quand il est en charge. C'est ce qu'il nous a dit durant la vidéo. Là. Ça m'ennuie de ne pas pouvoir l'utiliser. Parce qu'à certains moments, c'est comme un téléphone, il faut le recharger. Quoi.
Il faudrait qu'il se mette un casque.
Un petit casque. Mais je crois que c'est ça, en fait, le truc. Je crois que c'est ce qu'il imaginait, en tout cas. C'est un truc.
Je ne sais pas où il en est.
Il n'a pas précisé.
Moi, ce qui me gêne avec Neuralink, c'est un peu l'étape 2. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vachement bien, c'est super de pouvoir redonner un sens ou en tout cas des moyens d'interagir à des gens qui ont eu un accident et qui ne peuvent pas vraiment utiliser leurs membres. Mais on sait bien que derrière, Elon Musk a une idée beaucoup plus grande parce que ce marché, finalement, c'est un peu niche. Tout ça coûte très cher. Et lui, ce qu'il voudrait derrière, c'est qu'on en ait tous peut-être un jour de puce implantée dans notre cerveau. Alors ça pose plein d'autres questions. Est-ce qu'on a envie de ça ? Est-ce que c'est vraiment éthique de faire ça ? Moi, c'est l'étape 2, en fait, ou l'étape 3, parce que ça n'arrivera pas.
Après, peut
paraître inquiétante.
Je pense qu'il ne faut pas céder à la psychose et se dire, Elon Musk va nous télécommander avec son iPhone... en disant bah, tiens, Éric Le Bourlou, bah, je l'aime pas trop, tiens, je vais le faire dormir.
Je désactive.
Tiens, je vais le mettre à jour. Je vais mettre à jour Éric Le Bourlou, il va être plus sympa la prochaine fois, etc.
Déjà que tu as une partie de la population qui est flippée de la 5G, si tu veux. Ouais, alors, tu vois, oui, là, on est encore à une étape supérieure.
Mon Dieu.
Non, mais pour aller dans le sens de ce que tu disais, effectivement, c'est quand tu écoutes Elon Musk, le programme qu'il avait. J'allais dire, envisager au tout départ de Neuralink, c'était de dire de toute façon, demain, on n'aura pas le choix parce que si on veut rester, nous les humains, compétitifs face à l'intelligence artificielle, il faudra être augmenté par ce genre d'implant. Et là, effectivement, ça va poser des questions éthiques. Est-ce qu'on a envie de se faire implanter? Est-ce qu'on ne va pas créer à un moment une humanité à deux vitesses entre ceux qui accepteront ou qui auront les moyens financiers d'avoir la dernière puce qui va booster la capacité de calcul de ton cerveau et puis ceux qui refuseront ou qui n'auront pas les moyens? C'est des questions qui vont se poser et qui effectivement dépassent le spectre simplement technologique ou scientifique pour aller vers des champs qui sont philosophiques et éthiques en fait.
Moi le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que je me dis que finalement derrière tout ça c'est l'informatique, c'est... Imaginez demain on arrive à pirater cette puce qui est dans votre cerveau et on change les capacités, les fonctionnalités. Enfin, là je pars très loin. Mais finalement, aujourd'hui on arrive à pirater une Tesla. Pourquoi on n'arriverait pas à pirater un Neuralink
Pour envoyer des pensées impures.
Ouais,
pour te faire écrire des trucs que tu ne veux
imagine
pas écrire.
Imagine d'un coup tu deviendrais mauvais. Je pense que même en mettant à jour la puce d'Anthony, on n'y arriverait pas.
T'es trop gentil. T'es trop adorable. Bon, la question que je me posais, c'est on voyait le gars jouer aux échecs, par exemple. Comment est-ce que demain tu sauras qu'un joueur est vraiment bon aux échecs? C'est-à-dire tu devras faire des tests de dopage, il y aura des brouilleurs pour savoir si t'as une puce. Enfin, que là, Magnus Carlsen, à mon avis, demain, il se fait défoncer par le mec qui a Neuralink. Tu lui implantes Alpha Zero, là, le logiciel d'échecs, c'est foutu quoi. T'as le meilleur joueur d'échecs, il se fait exploser quoi.
Bon, en tout cas c'est vertigineux et on voulait commencer ce de quoi je me mêle avec ça. Évidemment, si vous êtes en audio, les images, alors c'est vrai comme tu le disais Eric, on voit des petits trucs qui bougent, etc. Mais bon, si vous avez l'opportunité de regarder de quoi je me mêle en version vidéo, il y aura un petit peu plus d'illustrations.
J'ajoute qu'en fait, pour terminer quand même, ils ont communiqué que ça, il n'y a pas de papier scientifique lié à tout ça pour l'instant, donc ils disent qu'ils vont communiquer plus tard, mais c'est vrai que ça reste toujours la com à la Elon Musk, c'est-à-dire un truc un peu spectaculaire, mais pour l'instant, et ça c'est en général, Neuralink se fait un petit peu taper sur le doigt là-dessus, c'est qu'ils ne sont pas très disert sur leur communication scientifique ça pose aussi un petit problème.
Ouais, mais ils ont du mal globalement à être adoubés par la communauté scientifique et ils publient tellement peu qu'à chaque fois c'est des vidéos extrêmement spectaculaires mais derrière les gens disent ok mais comment ça marche, est-ce que vous allez le mettre en open source, est-ce que vous allez ouvrir ça à d'autres chercheurs? Et à chaque fois, on leur impose le secret industriel, ce qui est logique.
Mais ça, c'est la patte Elon Musk. Hein.
Oui.
Mais d'un côté, quand même, chapeau, quoi. Non, bah, je sais que tu l'aimes pas, mais c'est vrai que on voit ce qu'il est en train d'apporter comme pierre à l'édifice dans l'humanité, hein, dans notre société, c'est quand même.
C'est vraiment Neuralink, je veux dire. Il y a eu aussi des chacun a une sensibilité différente là-dessus, mais il y a eu aussi beaucoup de tests sur les animaux qui ont été faits avec Neuralink. C'est normal dans ce genre de truc. Sauf que Elon Musk a pressé pour qu'on aille beaucoup plus vite, que ces scientifiques aillent beaucoup plus vite, et donc ce qui a provoqué la mort de plein d'animaux. Je dis ça, c'est aussi le fait de vouloir aller toujours plus vite dans ce genre de produits pour ce genre de technologie. Ça peut avoir des conséquences qui sont assez importante.
Après, il y a plein de recherches médicales qui malheureusement mettent dans des situations compliquées la détresse animale, hein, parce que
c'est bien sûr. Mais ce que vous avez dit, notamment des
laboratoires de masse, avant de tester sur les hommes,
c'était qu'en fait ils avaient dû aller trop vite et donc avaient dû tuer beaucoup plus d'animaux que s'ils avaient eu un processus normal. Voilà. Bon.
On referme la parenthèse Elon Musk et Neuralink pour nous intéresser à Apple. Apple qui, vous le savez, dans quelques semaines proposera la WWDC, c'est en juin en général, hein, c'est la grande conférence des développeurs qui se déroule à Cupertino. Évidemment, ce sera à suivre chez nous. On n'en sait pas grand-chose, tout ce qu'on sait c'est que visiblement l'IA sera au cœur du prochain iPhone et de la prochaine mise à jour d'iOS 18. Ça fait un moment qu'on le dit, et on en a parlé dans de quoi je me mêle. La petite information intéressante qui circule en ce moment, alors qui n'a pas été confirmée par Apple, parce que vous savez qu'Apple ne confirme pas grand-chose, c'est que Apple serait en retard en termes d'IA dans leur process et auraient fait appel à Gemini, donc le ChatGPT de Google en quelque sorte.
Ça, c'est un vrai coup de tonnerre quand même, parce qu'on attendait effectivement des annonces IA, et il y en aura sûrement lors de la WWDC. On sait qu'ils travaillent en interne sur un modèle de langage qui s'appelle Ajax. Ils ont un Apple GPT aussi en interne, donc ils travaillent sur plein de choses. Mais effectivement, apparemment, c'est pas suffisamment au point pour que être compétitif sur les fameux smartphones dopés à l'IA dont on parle semaine après semaine. Il y a les Pixel, il y a les Galaxy S24. Ils ont tous des fonctionnalités avec de l'intelligence artificielle. Et donc Apple, pour rattraper son retard, devrait effectivement intégrer Gemini, l'intelligence artificielle de Google, j'allais dire par défaut, quoi. En gros, alors pour le dire plus clairement, on aurait, pour tout ce qui se passe sur le téléphone en local, l'intelligence artificielle d'Apple qui suffirait visiblement à répondre aux questions quand t'es vraiment en fond de tâche, quoi, si tu veux. En revanche, pour tout ce qui passe par le cloud, tout ce qui est requête d'intelligence artificielle générative comme on peut le faire, eh bien là, pour le coup, ils feraient appel à Gemini comme ils se sont alliés avec Google pour le moteur de recherche sur l'iPhone, quoi. D'ailleurs, ce qui coûte très très cher à Apple, je crois que c'est 18 milliards par an, donc là, Gemini, j'aimerais bien savoir le chiffre, mais ça doit être assez coquet aussi.
Ça coûte cher à Google, pas à Apple, parce que c'est Google qui paye Apple.
Oui, c'est Google. Oui, j'ai dit l'inverse, pardon. Excusez-moi, mais oui, ça coûte très très cher à Google.
Ouais. Parce que rappelons ce que c'est pour être précis, Damien, c'est que quand vous êtes sur Safari ou n'importe quel navigateur, le moteur de recherche par défaut, quand vous tapez quelque chose dans la barre de recherche, ça vous emmène directement chez Google. Et ça, Google paye, on va dire, un emplacement VIP, loge, etc. etc. et ça leur coûte, je ne sais plus,
je crois que c'est 18 milliards.
18 milliards par an. C'est incroyable. Après, cela dit, ça prouve aussi ce que ça peut leur apporter. Parce que s'ils mettent 18 milliards, imaginez ce que ça leur apporte.
Bien sûr. Mais ce qui me surprend dans cette histoire, c'est que Apple fasse appel à Google, l'ennemi juré évidemment, mais surtout qu'ils n'aient toujours pas de solution pour s'en passer. Ça, c'est assez incroyable quand même. Et encore un autre truc, c'est que Apple va faire appel à Google en sachant que c'est contraire à sa philosophie primaire qui est la protection de la vie privée. C'est un produit qui est Gemini pour se rémunérer. À un moment, on va devoir taper dans les données de quelqu'un pour pouvoir gagner de l'argent dessus. Donc c'est un peu bizarre. Et je trouve aussi qu'ils le mettent en avant. Ça me dérange parce que ça va à contre-rebours de ce qu'avait pu faire Apple avant, quoi.
Ouais. Alors, il y a plein de questions là. Et c'est vrai, tu as raison, parce que Google, on le sait, c'est... Voilà, le buffet, le grand buffet à volonté pour les données personnelles. Et d'un autre côté, y a Apple qui dit, nous, on préserve vos données. Moi, je me souviens, j'étais au CES de Las Vegas il y a quelques années, et justement, Apple avait fait une énorme com. Je ne sais pas si vous y étiez. Il y avait sur le strip cet énorme écran publicitaire démesuré comme tout à Las Vegas, où on voyait, Apple conservera toujours vos données personnelles, etc., avec une petite allusion à Google. C'est quand même assez savoureux de voir qu'aujourd'hui, ils font appel à Google pour l'intelligence artificielle. Cela dit, je crois que c'est une brique technologique de Gemini qu'ils empruntent, restera dans les silos d'Apple. C'est-à-dire que finalement, ils achètent un savoir-faire Google. Tu me coupes si je dis une bêtise, Anthony.
C'est ça.
Mais finalement, c'est comme si, Google vendait un moteur à Apple, mais que ce moteur ne soit pas connecté à Google finalement. Il restera dans le giron d'Apple.
C'est sans doute certes, mais le truc c'est que il a bien été entraîné, Gemini. Donc il a été entraîné avec quoi? Il a été entraîné avec et c'est pour ça d'ailleurs que Apple a du retard sur d'autres comme Meta ou Google en la matière. C'est-à-dire que pour entraîner des grands modèles de langage comme ça, il faut, et les entraîner bien, il faut beaucoup beaucoup de données, crawler le web, aller farfouiner à droite à gauche, et en cela les meilleurs c'est Google, c'est Meta, etc. Donc effectivement Apple n'a pas ce savoir-faire et sans doute entraîner ces modèles sur moins de données que des gens comme Google. Maintenant, il a quand même été entraîné. Donc, quoi qu'il arrive, il reposera sur des données, alors souvent qui sont publiquement disponibles en ligne. Mais il est vrai quand même que ça va un peu à l'encontre de la philosophie d'Apple d'utiliser comme ça un grand modèle de langage entraîné par Google, qui est le plus grand aspirateur à données du monde.
C'est vrai que ça fait un peu tâche. De ce point de vue-là.
Ouais,
et puis, il y a un autre truc
qui
fait
tâche. Ils vont être obligés surtout de se justifier. Là.
Oui, alors ils vont sûrement en parler. Je pense, tu vas avoir toute une communication autour de vous inquiétez pas, vos données, tout va bien, etc.
Ça va être compartimenté, voilà, ça restera une partie uniquement, on va faire appel à des données locales.
Mais c'est là que tu comprends quand même qu'ils doivent le faire probablement à contre-cœur et qu'ils le font parce qu'ils sont en retard. Oui. Je pense que s'ils pouvaient s'en passer, ils s'en passeraient. Moi, l'autre point qui paraît faire un petit peu tâche dans la philosophie d'Apple en intégrant un outil comme Gemini, c'est que Gemini, c'est un outil qui n'est pas au point aujourd'hui. Apple, exactement, ils sont toujours dans la perfection, dans le truc. Si on vous présente un truc dans nos iPhones, c'est que c'est parfait, c'est nickel. Gemini, pardon, mais c'est quand même un peu pourri aujourd'hui. Enfin, moi, je l'utilise, je le dis d'autant plus volontiers que je l'utilise quasiment tous les jours, Gemini. Parce que c'est gratuit, je trouve ça très pratique et tout. Mais je m'en méfie comme de la peste. C'est-à-dire des résultats que me donne Gemini.
C'est beaucoup moins bon que ChatGPT.
Ah, attends, enfin, franchement, il hallucine tout le temps, Gemini. Il raconte vraiment n'importe quoi. Et puis, il y a eu toutes les polémiques sur le côté woke. Tu sais, quand leur générateur d'images, tu lui demandais de te faire des vikings, il te montrait des noirs, des chinois, mais il n'y avait pas un viking qui ressemblait à un viking.
Le fameux soldat allemand.
Ouais, ouais, le soldat allemand nazi qui est de toutes les couleurs, sauf. Enfin bref, c'est quand même très très bizarre, quoi, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est pas au point. C'est probablement des erreurs de jeunesse, ça va se corriger, ça va s'améliorer, mais qu'Apple te présente ça, c'est bizarre.
Mais il faut dire aussi que Google lui-même était en retard. C'est pour ça que Gemini, et avant ça s'appelait Bard, et ils ont beaucoup couru derrière OpenAI pour lancer leur propre service d'IA générative comme ça, mais ils étaient eux-mêmes en retard. Et on voit encore, comme tu le dis, c'est loin d'être parfait, et c'est parce qu'ils n'ont pas atteint le niveau que peut avoir aujourd'hui ChatGPT, notamment la version 4. Et bientôt,
c'est bizarre parce qu'on aurait pu imaginer, Damien, que Apple se tourne plutôt vers ChatGPT et OpenAI, non ?
C'est vrai aussi. Après,
Microsoft,
c'est plus proche.
Pourquoi Google,
parce qu'il y a toujours
finalement
une guerre entre Microsoft et Apple.
Ils sont
les
tellement
90.
Maqués OpenAI et Microsoft qu'à mon avis, c'était vraiment compliqué. Je pense que justement, ils essayent de créer, tu vois, une sorte de contre-pouvoir d'une certaine manière.
Tu sais, il y a plein de boîtes qui aujourd'hui prennent ChatGPT, mais un ChatGPT pour leur entreprise qui en fait va faire tourner le moteur, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, sans être connecté au serveur d'OpenAI, pour avoir en fait, si tu veux, toute la routine de l'intelligence artificielle générative, mais qui va être nourrie sur les propres données de l'entreprise. On aurait peut-être pu imaginer que Apple fasse la même chose, tu vois.
Tu as les grands ensembles qui sont en train de se créer, tu as l'impression que tu as d'un côté Microsoft OpenAI, tu as Anthropic, donc Claude avec Amazon.
Ils auraient pu prendre Claude aussi,
ouais, absolument. Mais je pense que tu as cette espèce
Mistral
de grands ensembles.
Voir Mistral.
Là, ça aurait été classe.
Ça aurait été très classe. Peut-être qu'il y a aussi un autre scénario où c'est une fuite qui est ordonnée par des gens chez Apple pour donner un coup de boost à la recherche en interne en disant, regardez, on vous met la pression depuis le monde extérieur et dépêchez-vous pour me livrer un truc en juin.
Ça s'est tordu, ça.
Ah bah oui, mais bon, en termes de philosophie, on est plus proche de la philosophie d'Apple que de faire appel à un concurrent direct, hein, je pense. Et il y a notamment ce papier qui est sorti il y a quelques temps, là, sur un nouveau, ça s'appelle un MLLM, on connaissait les LLM, Large Language Model, là c'est un model, Multimodal Large Language Model, où il va être capable, cette IA-là, qui est développée en interne par Apple, va être capable de lire des images, parce qu'elle a été entraînée sur des images et du texte, pas uniquement du texte.
Ok.
Donc elle est capable, par exemple, de prendre un panneau, de lire le panneau, de prendre un chiffre, de le lire, de faire une addition avec. Il y a un chercheur qui a publié le papier, qui a montré ça sur Twitter, c'est assez efficace. Et on se dit, peut-être qu'ils sont en train, en fait, de donner un grand coup dans la fourmilière en se disant, sortez-moi un truc, finalement, parce que sinon, on va aller voir l'ennemi, quoi.
Alors après, rappelons-le, hein, ce ne sont que des rumeurs, il n'y a rien d'acté, donc à prendre avec des pincettes, même si c'est Bloomberg, je crois.
C'est Mark Gurman
qui est
très bien informé sur Apple.
Voilà, on dirait qu'il est dans le bureau, il est dans un des tiroirs de Tim Cook. Non mais c'est incroyable.
Bah, il sait tout.
Ouais. C'est fou ça. Ouais, on dirait que quand Tim Cook s'en va à la cafette, l'autre, il arrive, il ouvre tous les tiroirs, et il regarde tout ce qu'il y a. Ok, bon alors ça, je vais le dire tout de suite, ça, je vais le garder pour plus tard. C'est incroyable.
C'est rare d'avoir un journaliste qui est aussi bien informé sur une marque.
Ça,
c'est le seul qui a les infos.
Mais tu sais quoi, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus fascinant. Quelles sont les connexions de ce mec-là, en fait ? Est-ce que c'est piloté par Apple ? Parce que ça pourrait être envisageable, finalement.
En tout cas, il a des sources très bien renseignées et
quand on sait qu'Apple déteste les fuites depuis le temps, ils n'ont pas trouvé le gars qui balance tout à Mark Gurman. C'est quand même incroyable. Comme Intuico, c'est pareil. Enfin, c'est les deux. C'est les deux.
Apple a toujours eu cette tradition aussi d'avoir certains journalistes qui fuitaient. Alors, c'est possible, hein, j'en sais rien, mais avant, il y avait Walt Mossberg, hein, qui était un proche de Steve Jobs. Et voilà, de temps en temps, et assez souvent même, on avait des informations qui fuitaient par Walt Mossberg sur un nouveau produit Apple, notamment l'iPad. iPad, par exemple, je m'en souviens bien.
Oui, exactement. Voilà. Bon,
donc
on
peut-être
verra,
que c'est la même chose.
On verra tout ça, évidemment, comment tout ça évolue. Tiens, puisqu'on est dans l'IA générative, on va y rester avec des rumeurs comme quoi ChatGPT 5 devrait arriver cet été. Je vous rappelle qu'on en est à la version 4, voilà, OpenAI est en train de cartonner avec son outil hein, d'intelligence artificielle générative qui est utilisé par des centaines de millions de gens aujourd'hui hein, et des gens qui payent $20 par mois pour avoir la version ChatGPT 4 avec évidemment beaucoup plus de fonctionnalités. Et donc c'est, comment s'appelle-t-il, Sam Altman qui a dévoilé cette information. Cet été devrait sortir ChatGPT 5.
Ouais. On ne sait pas grand-chose. On sait quasiment rien, en fait, si ce n'est que ce sera encore plus beau, encore plus fort.
Encore plus puissant, 10% ouais. plus puissant.
Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça qui m'intéresse, en fait, dans cette course effrénée aux annonces aussi, hein, parce qu'il y a ça. J'avais fait un papier il y a une semaine sur la nouvelle version de Claude, justement, l'IA d'Anthropique, Claude 3. Donc, il disait, nous, on est plus fort que ChatGPT 4.5 parce qu'on a... Alors, tu sais, maintenant, ils font des benchmarks industriels où, en gros, ils font passer des tests standardisés à leurs IA. Donc, ça peut être de résoudre des problèmes de maths de tel niveau scolaire, compréhension de texte, résumé de texte. Et en fait, à la fin, tu as une note, quoi, tout simplement. Et là, maintenant, c'est Claude, donc d'Anthropique, qui est un peu au-dessus de ChatGPT. Donc, forcément, il faut qu'ils répliquent. Et même si leur IA n'est pas encore complètement prête, bah, tu as une guerre de communication. Non, mais attendez, cet été, on va vous annoncer GPT-5 et vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va être encore plus fort. Parce qu'on est dans une guerre d'adoption aujourd'hui. On est encore dans un monde où, oui, c'est vrai, l'adoption est très, très rapide, mais où il y a une grande majorité de gens qui n'utilisent pas, au quotidien, ces outils-là. Et donc, bah, il faut être le plus puissant, le plus ergonomique aussi, pour que les gens aient envie de t'utiliser. Et c'est aussi pour ça qu'on pré-annonce GPT-5, sans nous en dire beaucoup plus pour l'instant.
Ouais, c'est comme les moteurs de recherche, comme les réseaux sociaux. À chaque fois, c'est le premier, c'est winner takes it all. C'est le premier qui arrive à s'accaparer le marché, qui va tout récupérer. Donc là, ils préfèrent mettre et de la communication sans forcément annoncer des vraies choses, effectivement, mais occuper l'espace et se dire que de toute façon, c'est la meilleure solution sur le marché. Autant la prendre tout de suite. Comme ça, vous serez tranquille pour le reste.
Eric.
Oui, on l'attend. C'est vrai qu'il y a eu très peu d'informations qui ont fuité. C'est visiblement Business Insider qui a eu vent par le biais de CEOs qui testent déjà le modèle, mais qui n'a pas fini d'être entraîné. Et puis derrière, après l'entraînement, il faudra aussi le mesurer en fait sa propension à dire n'importe quoi. Donc il va être ce qu'on appelle red teamé. Hein, donc il y aura des gens qui vont lui poser des prompts qui vont être les plus problématiques possibles pour voir comment il réagit. Donc il y a toute cette phase qui va avoir lieu avant son lancement, qui peut prendre plus ou moins de temps. Donc on ne sait pas exactement si ça pourrait durer un peu plus de temps que prévu.
Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, ChatGPT, c'est devenu en fait une marque très forte. Mmh. Et autant, demain, on apprend que Gemini va sortir en version 3, on s'en fout un peu. Là, ChatGPT 5, ça crée quand même une espèce de d'effervescence parce que,
c'est une marque.
C'est une marque. Ouais. C'est une marque hyper puissante et on attend avec impatience, un peu comme un nouvel iPhone, quels vont être, et on sera les premiers à tomber dedans hein, et à tester toutes ces fonctionnalités pour voir ce qu'il y a de nouveau par rapport à la version 4. Quoi. C'est ça qui est fort. Et ça, en quoi ? Même pas deux ans ? En un an et demi ?
En un an et demi, ouais, c'est vrai. Faut rappeler, ChatGPT, ça a été le produit technologique dont l'adoption a été la plus rapide de l'histoire.
C'est fou.
100 millions d'utilisateurs en l'espace de quelques semaines, ce qui est du jamais vu. Même TikTok n'a pas fait ça à l'époque. Tu vois, en termes de viralité, c'est un truc complètement dingue. Mais avec un effet déceptif potentiel, parce qu'effectivement, maintenant, ils sont obligés d'être dans la surenchère de com. Et d'ailleurs, ça leur a été reproché avec Sora, parce que Sora, c'est aussi OpenAI, l'IA générative de vidéos qui est absolument incroyable sur les vidéos qui ont été publiées par OpenAI, sauf qu'on n'a que des vidéos publiées par OpenAI qui nous disent « Regardez, c'est formidable !» Sauf que personne d'autre a vraiment pu le tester. Et les gens qui ont pu, effectivement, y avoir accès disent « En fait, c'est pas forcément si impressionnant que ça. » En tout cas, c'est pas aussi impressionnant que ce qu'OpenAI a laissé montrer au départ. Donc voilà, il faut quand même se méfier aussi un petit peu des effets d'annonce, même si je ne doute pas que GPT-5 sera incroyable.
Et pour terminer sur l'intelligence artificielle, et pour aussi arrêter cette première partie de ce de quoi je me mêle, tu es venu avec un PC Dell. Bon, alors, jusque-là, rien de particulier. Hein, Dell sort des PC assez souvent. Toujours de très beaux PC. Hein, moi, j'adore les modèles XPS qui sont à la fois très design et assez puissant pour la plupart des usages. Hein. Enfin, voilà. Et donc là, le nouveau PC Dell a une particularité, c'est qu'il y a une nouvelle touche qui arrive en fait sur le clavier.
Exactement, tu as une petite touche. Bah, c'est les nouveaux PC, en fait, ce qu'on pourrait appeler IA Inside. Hein. On parlait d'Intel Inside à une époque. Maintenant, tu as les PC IA Inside. Et donc, la grosse différence, une petite différence visuelle, c'est que tu as la touche copilote qui est présente donc en bas à droite du clavier. On est juste à côté du pavé tactile, en fait, hein, du pavé avec les flèches.
Parle un petit peu plus près du micro.
Excuse-moi,
c'est un petit peu loin, voilà, c'est mieux.
Voilà, donc je disais, on est juste à côté du pavé avec les flèches, et donc tu as ce petit logo copilote qui, lorsque tu l'actives, en fait, va te lancer automatiquement. Voilà, copilote, c'est le bouton magique de l'intelligence artificielle, en fait. Alors, ça peut sembler anodin, mais il faut se souvenir que c'est la première fois depuis 1994 qu'il y a une nouvelle touche sur le PC, hein, c'était la touche Windows. Ouais. On touche très rarement, enfin, je veux dire, avec une infinie précaution, parce que c'est les habitudes des gens, tu vois, la touche du PC, c'est quand même pas, c'est pas rien, quoi. Donc là, il y a
c'est le sanctuaire.
C'est ça. Donc tu as un côté symbolique qui est très très fort, et puis un côté pratique aussi, parce qu'effectivement, là, ils ont présenté ce modèle-là au Mobile World Congress, tu avais dû le voir quand tu étais là-bas. Il y en a d'autres qui ont été présentés par Lenovo, par d'autres marques également, mais ça va devenir le nouveau standard de l'industrie. Demain, tous les ordinateurs, enfin tous les PC portables auront cette petite touche IA qui permet donc d'avoir accès à l'IA générative. Donc tu vas pouvoir écrire des prompts, demander des images. Tu vas pouvoir, je sais pas, te connecter par exemple sur PowerPoint et lui demander de te préparer des slides, sur Teams pour lui demander de te résumer une réunion, enfin ce genre de choses. Sachant que le petit bouton, c'est évidemment le côté visuel, mais à l'intérieur, c'est là que ça se passe. Et donc tu as des composants qu'on appelle des NPU. Donc tu as le CPU, le GPU
et le NPU,
donc le Neural Processor Unit, qui est en fait un composant qui est optimisé pour gérer toutes les tâches d'intelligence artificielle.
Donc, ce n'est pas qu'une touche sur un clavier, quoi. Il y a aussi des modifications hardware importantes.
Qui te permettent en fait d'optimiser ces tâches-là, c'est-à-dire de pouvoir les réaliser en utilisant moins d'énergie, si tu passes juste par le GPU par exemple, et de les réaliser en local, ce qui est très très important, ne serait-ce que pour des questions de sécurité. Hein, tu sais, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Donc là, en fait, tu peux avoir accès aux outils d'IA générative sans avoir besoin d'être connecté et de passer par le cloud.
Mais après, cette fonctionnalité copilote, on peut y avoir accès, même si on n'a pas un PC avec cette touche.
Bien
attention,
sûr, évidemment.
Parce que c'est important. Je veux dire, vous avez un PC relativement récent et vous mettez à jour Windows 11. Vous aurez accès, je ne sais pas si c'est déjà le cas, je ne crois
non,
pas.
Non, en fait, il faut souscrire à l'offre Office 365 pour ensuite avoir accès à Copilot.
D'accord.
C'est un abonnement en plus.
Oui, mais parce que je crois qu'il y avait une version aussi Windows de Copilot, non ? Qui était elle.
Oui, qui n'a pas encore été.
Qui
n'a
pas encore été.
Pas encore
été voilà.
Mais là, quand il appuie sur le bouton, c'est cette version-là de Windows, non ? Copilot ? Ou c'est Office 365 ?
Après, là, je ne sais pas, je ne vois pas d'ici, mais il est possible que ce soit un abonnement, ou alors c'est simplement l'aide de Bing qui apparaît aussi dans Bing et dans Edge.
Qu'est-ce que tu vois apparaître là,
je peux proposer des prompts, en fait. Et alors oui, j'ai le truc Activate Windows, mais en fait là, le PC, je ne l'ai pas.
Ouais, tu l'as pas, tu viens de le recevoir.
Je ne l'ai pas complètement configuré, je viens juste de le recevoir.
D'accord.
Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est effectivement qu'il y a cette touche, mais il y a aussi une nouvelle génération de puces Intel, hein, qui s'appelle les Core Ultra. Et ces Core Ultra, c'est une révolution pour Intel, puisque c'est vraiment des puces qui sont qu'on appelle des chiplets, où ils ont comme ça additionné sur leur puce plein de bouts de puces différents, et notamment, comme tu le disais, un NPU, donc une puce qui va accélérer les traitements IA. Alors pour l'instant, il n'y a pas non plus alors il y a des applications qui vont arriver, il y en a quelques-unes qui sont compatibles. Pour l'instant, les applications commencent à arriver, mais c'est vrai que c'est surtout une nouvelle génération de puces Intel aussi.
Bien sûr.
Damien ?
Le vrai miracle, ça va être quand on va couper Internet, qu'on va se retrouver à faire de l'IA générative directement sur le PC, qu'on va pouvoir à la fois traiter des photos, faire un peu de retouche, faire du PowerPoint, tout ça en local.
Ça, c'est
la vraie révolution. Il me semble que les constructeurs l'annonçaient pour les premières ventes juste avant l'été, que la vraie révolution arriverait évidemment avec le renouvellement des PC à la rentrée, logiquement.
Et avec Windows 12 qui va aussi pas mal changer la donne de ce point de vue-là. Et alors, ce qui est intéressant aussi, on parlait de communication, de marketing, c'est que ça va aussi devenir le nouvel argument marketing de tous les fabricants de PC, comme ça l'est pour les fabricants de smartphones. On a eu l'occasion d'en parler abondamment, que ce soit Google avec ses Pixel, les Galaxy S24, maintenant maintenant tous les téléphones se vendent comme étant des smartphones dopés à l'IA avec les fonctionnalités de retouche photo, de traduction instantanée, bah en fait pour le marché des PC qui est un marché quand même en difficulté depuis 2 ans, hein, c'est des ventes quand même en berne, bah là ils comptent tous sur l'intelligence artificielle et ses nouvelles fonctionnalités pour rebondir en fait.
Ouais. Bon, même si c'est pas pour l'instant. Je veux dire, n'essayez pas d'acheter un PC IA et pensez que vous allez avoir un ChatGPT à la maison. Pour l'instant, on en est très très loin. Les puces Intel sont très bien, les nouvelles puces Intel, et justement au numérique, ils en ont testé beaucoup. Mmh. Hein, elles sont très bien, notamment pour l'autonomie des PC, que ça améliore beaucoup.
D'accord.
Parce qu'ils ont, ouais, grâce à cette nouvelle architecture. En revanche, pour l'IA, pour l'instant, c'est une belle promesse. On va voir avec la compatibilité des applications qui vont arriver. Mais pour l'instant, il ne faut pas s'attendre à avoir un ChatGPT sur son PC.
Non, c'est vrai. Mais après, il y a d'autres fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle qui sont rendues possibles aussi par ces PC. C'est par exemple quand tu es en visio, tu auras la webcam qui va s'ajuster, avoir le suivi des yeux automatique, te faire un fond absolument parfait.
Améliorer le son.
Améliorer le son, exactement. Pour les PC gamers aussi, tu vas avoir une diminution du temps de latence. Mmh. Tu vas avoir des choses, enfin des éléments qui sont très concrets aussi, qui sont liés.
Qui sont moins visibles
directement, mais qui vont faciliter le confort d'utilisation aussi. Voilà.
Et pour compléter, pour les fans d'Apple notamment, le dernier MacBook Air avec le processeur M3 que j'ai pu essayer, on a été capable, nous, de faire tourner un modèle d'IA, en l'occurrence Mistral S7B, qui a tourné en local, en fait. On ne l'avait pas connecté à Internet, et après avoir téléchargé, installé le truc, donc il y a quand même des composants qui sont capables de le faire. Maintenant, on va passer dans la phase où ça va être adopté par tout le monde, notamment par les gens sur PC. Et là, on va rentrer dans un autre monde.
Okay. Enfin,
c'est 2025 et c'est très, très proche.
Bon, on va faire une petite pause, les amis, pour attaquer notre deuxième partie de ce De quoi je me mêle, et parler jeux vidéo avec la PS5 Pro. Vous savez que régulièrement, il y a des mises à jour des consoles, et notamment chez PlayStation. Et là, il y a eu pas mal de fuites concernant la PS5 Pro. C'est Eric Le Bourlou qui va nous en parler, toujours avec Anthony, bien sûr, et Damien Licata Caruso. Deuxième partie de ce De quoi je me mêle, juste après ceci. Merci d'être là, tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.